ne vaut rien. Le quai du Louvre, c'est le contraire, quand le soleil frappe les écailles des poissons dans leurs aquariums et réveille dans les cages à oiseaux des bruits de jungle. Par ses jugements, Augustin croyait pouvoir reprendre l'avantage. Charles-Pierre n'avait pas toujours été libraire, il avait même connu jadis le voyage et l'aventure, parce que son grand-père Gantet aime de Lesseps et qu'il l'accompagnait souvent, après le lycée, dans ses pérégrinations commerciales, il s'était trouvé un après-midi de juin monté l'escalier de service d'un hôtel du Faubourg. Là tout avait commencé. Son air vif et rêveur avait plu. À 20 ans à peine, il était parti pour le Caire en qualité de secrétaire, de valet, de messager, d'homme à tout faire. Lesseps était pédagogue comme le sont souvent les hommes d'action. Il aimait décrire à son caouche les beautés de l'Égypte. À cheval, il s'échappait des chantiers et, galopant dans le désert, gagnait Alexandrie. Lesseps pouvait rester là, dans une échoppe à l'ombre d'un palmier, à boire du thé vert longtemps, au milieu des indigènes attroupés. Après quelques mois, le jeune Charles-Pierre avait été affecté à la caisse de la compagnie pour apprendre les écritures, et la protection du maître du canal continuait de s'étendre sur lui. National de Bussy s'y tenait en qualité d'aide-comptable. Le Suez a toujours bien accueilli, par la suite, les fils de famille simples et exactes, qui ne prétendent pas, ne jouent pas à l'homme d'affaires et ont l'habitude des beaux meubles, du ton qu'il faut. Au début c'était plus rare. Aux meilleures familles, ce Lesseps si volontaire, si voyant, apparaissait un peu comme un déclassé. Il y avait chez lui de l'âpreté et du génie, les qualités les plus propres à effaroucher la société. Aussi ne déléguait-elle là-bas que les plus incapables, les mal disciplinés, les fugueurs. Le Suez était à l'aristocratie ce que l'Algérie était au peuple, moins qu'un champ d'exercice, une manière de caniveau. Après tout, les meilleurs reviendraient riches et les autres avaient toutes les chances de disparaître. National de Bussy était parti de lui-même. Élevé rue du Bac par une mère légitimiste qui passait sur une chaise longue, soit dans son boudoir, soit dans son jardin, le plus clair de son temps, transporté chaque été aux confins du Berry, il avait voulu, certain automne, se donner de l'air. M. de Lesseps, qui connaissait sa parentèle, et de plus voisin berrichon, avait fait l'affaire. Il était entendu que Lesseps ne refuserait pas ce service qu'on lui demandait, qui se trouvait compensé par l'honneur qu'on lui faisait de lui envoyer un Bussy, et d'ailleurs ses beaux raisonnements n'avaient effleuré personne. Charles-Pierre et National de Bussy s'étaient connus là, dans un petit bureau jouxtant la cabane de l'ingénieur en chef, assis sur des caisses au milieu des liasses abîmées par le sable. Le second rêveur et bon vivant, le premier précis et sceptique, ils s'étaient parlé comme les exilés le font. Tous deux étaient bons, chacun à sa façon. Ils s'étaient acquis ensemble parmi les ouvriers arabes une solide popularité. Ensemble, ils avaient découvert un peu de l'Orient, Bussy y avait même contracté la vérole. Ensemble, ils avaient respiré la chaleur du jour et ressenti de l'angoisse devant ces paysages immuables. Ensemble, ils avaient suivi Lesseps, Bussy l'admirant sans réserve, Pierre le voyant plus exactement peut-être, comme un entrepreneur qui pourrait devenir un aventurier, et un aventurier qui pourrait mal finir. Ils se séparèrent un automne. Plusieurs ouvriers du chantier revenaient du Mexique où ils avaient combattu autour de Veracruz. En Égypte, il y avait du soleil comme toujours, mais en France à 8 heures le matin le brouillard frais couvrait les champs. Le grand-père de Charles-Pierre venait de mourir. Le jeune homme reprit la fabrique, armé de ses connaissances égyptiennes. L'affaire marchait bien, il la fit croître encore. À Bussy resté là-bas, il écrivait quelquefois. Il lui parlait du Paris rouge et hors de l'Empire, de ce côté théâtre, des fausses grandes manières, des financiers et des grisettes et du souverain vieilli. National évoquait l'Égypte éternelle et les petites misères du chantier. Charles épousa la fille unique d'un agent de change aimable qui ne vit pas d'obstacle au mariage. L'homme jouissait d'une honnête aisance, rien de plus. L'un des seuls de sa profession, il déplorait les coups de bourse qui agitaient Paris et que les traditions bancaires se perdissent. Il avait toujours regretté que la France fût en retard sur l'Angleterre, mais s'alarmait de voir ce retard rattrapé à coups de manœuvres douteuses et dans un grand envol d'immoralité. Il était veuf, minuscule, très bien habillé et possédait une étonnante collection de livres rares. Il avait de l'ironie et du dédain à revendre, avec un peu de cette tristesse particulière aux gens moraux. Charles s'amusait beaucoup à dîner chez lui, quand la journée n'avait pas été propice et qu'on lui demandait « Que pensez-vous d'un tel ?» Il répondait, le plus fréquemment d'une voix lasse en baissant ses yeux gris, « Ah, quel déconcertant salaud !» ou « Quelle triste vomissure !» ou quelque chose d'approchant. Le maître d'hôtel alors passait un plat, et c'était « Que voilà une étrange mixture !» Le contraste de cet accent feutré et comme indifférent et de ses affirmations péjoratives était d'un comique irrésistible, et de fait, Charles et Florence éclataient souvent de rire, tant et si bien qu'un sourire finissait par éclairer la face du beau-père. Devenu homme, Augustin emploierait aussi ces expressions qu'il n'avait pas entendues. Son père alors resterait quelques instants comme perdu dans un songe, les mains croisées sous le menton, la vue brouillée. Charles ne fut pas appelé pour la guerre et Florence mourut l'année du siège en donnant naissance à Augustin. Le père crut devenir fou de chagrin. Il ne venait plus à la fabrique et ne s'arrêtait de marcher au hasard des rues, la tête pleine de brefs souvenirs, que pour s'écrouler sur les bancs. La France était défaite et l'on brûlait les Tuileries. Charles écrivait à Nathanael, « Je ne savais pas qu'on pouvait se sentir si misérable. Je ne peux pas imaginer que d'autres ont connu cela avant moi, mais Nathanael était parti sans laisser d'adresse, et sa famille ne savait pas où le trouver. Il parlait à Florence et cette habitude ne cessa pas. Les Versaillais écrasèrent la commune. La paix revint et Charles ne put guérir. Il vendit la fabrique et acquit le fonds de librairie de la place Saint-Sulpice. Désormais plus d'efforts, se disait-il, attendre la fin simplement. En compagnie de Florence disparue, il redevenait un petit garçon rêveur. Le soir il lui semblait l'entendre, elle lui parlait doucement pour le consoler, lui racontait des histoires. Son beau-père vint lui acheter des livres, il feuilletait, ne parlait pas et s'en allait avant de pleurer. La vie revint peu à peu mais trop tard. Charles-Pierre avait à moitié disparu.